Nous nous engageons sur la nationale. Traversons quelques agglomérations. Des panneaux publicitaires pour des sociétés de crédit. Une station-service décorée de façon grandiose pour attirer l'attention. Un restaurant aux salles vitrées. Un love hôtel en forme de château occidental. Un magasin de location de vidéos qui a fait faillite et dont il ne reste que l'enseigne. Une salle de pachinko avec un immense parking. Voilà le genre de choses qui défilent sous mes yeux. Des chaînes de fast-food et de supermarchés. McDonald's, Family Mart, Lawson, Yoshinoya. La réalité extérieure devient de plus en plus bruyante. Les freins hydrauliques des semi-remorques, les klaxons, les pots d'échappement. Les flammes du poêle familier, le scintillement des étoiles, le silence de la forêt, toutes ces choses qui m'entouraient hier encore s'éloignent de plus en plus, disparaissent complètement. Je n'arrive même plus à m'en souvenir avec précision.
« Il faut que tu saches certaines choses à propos de Mademoiselle Saeki, » dit Oshima. « Quand elle était petite, ma mère était à l'école avec elle. Elles étaient très amies. Et d'après ma mère, c'était une petite fille très intelligente. Elle avait de bonnes notes. Elle s'exprimait bien. Elle était douée pour le sport aussi. Elle savait jouer du piano. Elle était première dans tout ce qu'elle faisait. Et en plus, elle était jolie. C'est toujours une jolie femme d'ailleurs. »
Je hoche la tête.
Depuis l'école primaire, elle avait un amoureux attitré. Le fils aîné de la famille Komura. Ils avaient le même âge. Une belle petite fille et lui, un beau petit garçon. On aurait dit Roméo et Juliette. Ils étaient cousins éloignés. Ils habitaient à proximité et ne se quittaient jamais. Tout naturellement, en grandissant, ils sont tombés amoureux. C'était un couple complètement fusionnel. Enfin, c'est ce que ma mère m'a raconté.
Il regarde le ciel pendant que la voiture est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, il appuie sur l'accélérateur et dépasse un camion-citerne.
Tu te rappelles ce que je t'ai raconté à la bibliothèque, sur chaque être qui cherche sa moitié perdue?
Homme-homme, femme-femme et homme-femme?
C'est ça. C'est ce que dit Aristophane. Nous vivons des vies bancales dont nous passons la majeure partie à rechercher notre moitié manquante. Mais Mademoiselle Saeki n'avait pas besoin de chercher, elle. Elle et le jeune Komura avaient trouvé leur moitié, quasiment dès la naissance.
Ils ont eu de la chance. Oshima hoche la tête.
Une chance inouïe, jusqu'à un certain point.
Il se caresse la joue, comme pour vérifier qu'il s'est bien rasé. Mais il n'y a pas la moindre marque de rasoir sur sa pelisse comme de la porcelaine.
Quand le jeune homme a eu 18 ans, il est allé à l'université à Tokyo. Il avait de bonnes notes et voulait se spécialiser. Il voulait aussi voir à quoi ressemblait la vie dans une grande ville. Elle, de son côté, intégra une école de musique de sa région pour y poursuivre ses études de piano. Les gens ici sont assez conservateurs et elle avait été élevée dans une famille traditionnaliste. Elle était fille unique, ses parents n'avaient pas envie d'envoyer leur enfant chéri à Tokyo. C'est ainsi que les deux amoureux se sont trouvés séparés pour la première fois de leur vie. Comme si une épée divine les avait coupés en deux. Naturellement, ils s'envoyaient des lettres chaque jour. « C'est peut-être bien que nous soyons séparés au moins une fois », lui écrivait-il. « Parce que, ainsi, nous pourrons vérifier à quel point nous sommes importants l'un pour l'autre. À quel point nous avons besoin l'un de l'autre. » Mais ce n'était pas ce qu'elle pensait, elle. Mademoiselle Saeki savait que leur relation était suffisamment solide pour qu'il ne soit pas nécessaire de la mettre à l'épreuve par une séparation. C'était une union prédestinée telle qu'on n'en trouve qu'une sur un million. Un lien impossible à dénouer. Elle en était sûre. Mais pas lui. Ou alors, il le savait, sans pouvoir l'accepter. Voilà pourquoi il était parti pour Tokyo. Il pensait sans doute que surmonter cette adversité renforcerait encore leur amour. Les hommes ont ce genre de pensée. À 19 ans, elle écrivit un poème. Elle le mit en musique, le joua au piano et le chanta. L'air était mélancolique, innocent et d'une authentique beauté. Mais les paroles étaient symboliques, contemplatives, en un mot assez absconses. Ce contraste donnait une sorte de fraîcheur à l'ensemble. La mélodie, comme les paroles, exprimait le chagrin de son cœur plein de nostalgie pour son ami lointain. Elle chanta sa composition devant quelques personnes. Elle était plutôt timide de nature, mais elle aimait chanter et avait même formé un groupe de musiciens folk avec des amis du temps où elle était étudiante. Quelqu'un entendit sa chanson, fut impressionné, l'enregistra sur une cassette qui l'envoya au directeur d'une maison de disques de sa connaissance. La chanson plut beaucoup à cet homme, qui fit venir Mademoiselle Saiki à Tokyo dans le studio de sa compagnie et lui proposa d'enregistrer un disque. C'était la première fois de sa vie qu'elle allait à Tokyo et elle en profita pour voir son ami. Ils s'arrangèrent pour se retrouver entre les séances d'enregistrement et s'aimer comme avant. Ma mère m'a dit un jour qu'elle pensait qu'ils avaient des relations sexuelles quotidiennes depuis l'âge de 14 ans. Tous deux étaient précoces. Et comme il arrive souvent avec les adolescents précoces, ils avaient du mal à grandir. Ils se comportaient comme s'ils avaient encore 14 ou 15 ans. Chaque fois qu'ils se serraient dans les bras l'un de l'autre, ils mesuraient à quel point ils avaient besoin l'un de l'autre. Aucun d'eux n'avait jamais été attiré par personne d'autre. Même pendant leur séparation, il n'y avait pas eu de place pour un autre dans leur cœur. « Dis, je t'ennuie peut-être avec ce conte de fées ?»
Je secoue la tête. « Il va y avoir un revirement du destin, non ?»«
Exactement !» dit Oshima. « C'est ce qui fait le sel des histoires. Les retournements de situation. Les développements inattendus. Il n'y a qu'une sorte de bonheur. Mais le malheur prend mille formes différentes. Comme dit Tolstoï, le bonheur est une allégorie. Le malheur est une histoire. » Donc, le disque fut mis en vente et connut un énorme succès. Il se vendait. 1 million, 2 millions d'exemplaires, je ne connais pas le chiffre exact. En tout cas, c'est un chiffre qui battit tous les records à l'époque. Il y avait une photo de Mademoiselle Saiki sur la pochette. On la voyait assise, devant le piano, dans le studio d'enregistrement, souriante. Comme elle n'avait pas d'autre titre à proposer, on avait gravé la version instrumentale, piano et orchestre, de la même chanson sur la face B du 45 tours. C'est elle qui a joué la partition au piano. C'était en 1969 ou 1970. Ma mère m'a dit qu'on entendait cette chanson sur toutes les radios. Moi, je n'en sais rien, je n'étais pas né. Mais finalement, ce fut son seul et unique disque. Elle n'a pas fait d'album ensuite et n'a pas sorti d'autres singles non plus.
Je me demande si j'ai déjà entendu cette chanson.
Tu écoutes souvent la radio ?
Je secoue la tête. Pratiquement jamais.
Dans ce cas, je pense que tu n'as jamais dû l'entendre. On n'en a pas tellement l'occasion de nos jours, sauf dans un programme spécial nostalgie à la radio. Mais c'est une belle chanson. J'ai la musique sur un CD. Et je l'écoute de temps en temps, quand Mademoiselle Saiki n'est pas là, bien entendu. Elle déteste qu'on lui rappelle cet épisode de sa vie. En fait, elle déteste tout ce qui peut évoquer son passé.
Quel était le titre de la chanson ?
Kafka sur le rivage, dit Oshima.
Kafka sur le rivage ?
Eh oui, Kafka Tamura, le même nom que toi. Étrange coïncidence, non ?
Ce n'est pas mon vrai nom. Enfin, Tamura, si, c'est mon vrai nom.
Mais c'est toi qui as choisi ce prénom ?
Je hoche la tête. Oui, j'avais décidé depuis longtemps que ce prénom convenait parfaitement à la nouvelle personne que j'étais.
C'est important, dit Oshima.
Le petit ami de Mademoiselle Saiki est mort à 20 ans, au moment où Kafka sur le rivage était un tube. L'université où il était a fait grève pendant le mouvement étudiant, et des étudiants militants l'ont occupé. Un soir, vers 10 heures, il a traversé les barricades pour apporter des provisions à un de ses amis qui se trouvait à l'intérieur. Les étudiants qui occupaient le bâtiment l'ont pris pour un membre d'un groupuscule rival, à qui il ressemblait, paraît-il. L'ont attrapé, ligoté sur une chaise et lui ont fait subir un interrogatoire comme s'il était un espion. Il a essayé d'expliquer qu'il y avait terreur sur la personne, mais chaque fois qu'il parlait, on le battait avec un bâton ou un tube d'acier. Quand il s'est effondré, ils ont continué à le frapper à coups de pied.
Il est mort un peu avant l'aube. Il avait la boîte crânienne enfoncée, les côtes brisées, les poumons déchirés. Ils ont jeté son cadavre au bord d'un chemin comme si c'était un chien. Deux jours après, à la demande de la direction de l'université, une unité de la gendarmerie mobile est intervenue, a pénétré dans l'enceinte de l'université et en quelques heures, la révolte a été matée. Plusieurs étudiants ont été arrêtés et accusés de meurtre. Ils ont reconnu leur crime, se sont défendus au tribunal en disant qu'ils n'avaient pas eu l'intention de le tuer, et finalement, deux d'entre eux ont écopé de peines légères pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Tout le monde s'est dit qu'il était mort pour rien. Mademoiselle Saïki n'a plus jamais chanté. Elle s'est enfermée chez elle. Elle ne voulait plus parler à personne, même pas au téléphone. Elle n'a pas assisté à l'enterrement de son amie. Elle a envoyé une lettre à son école de musique pour dire qu'elle arrêtait ses études. Plusieurs mois se sont écoulés, et puis, un jour, on s'est aperçu qu'elle avait quitté la ville. Personne ne savait où elle était partie, ni pourquoi. Ses parents ne voulaient rien dire. Ou peut-être qu'ils ne savaient pas exactement où elle se trouvait. Elle s'était volatilisée comme de la fumée. Même la mère d'Oshima, qui était sa meilleure amie, n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle était devenue. La rumeur a couru qu'elle avait été internée en hôpital psychiatrique, à la suite d'une tentative de suicide dans les forêts proches du mont Fuji. Selon certains, quelqu'un l'aurait croisée dans une rue de Tokyo. D'après cette personne, elle était devenue écrivain ou quelque chose comme ça et vivait à Tokyo. D'autres ont prétendu qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu des enfants. Mais tout ça n'était que des rumeurs sans fondement. 25 années se sont écoulées ainsi. La seule chose dont on soit sûr, c'est que, où qu'elle ait passé ces 25 années, elle n'a pas eu de problème financier. Les royalties de Kafka sur le rivage avaient été déposées sur son compte bancaire, et même après impôt, il lui restait une somme appréciable. Elle touchait aussi des droits chaque fois que la musique passait à la radio ou était incluse dans une compilation. Il était facile pour elle de vivre au loin sans dire où elle était. De plus, sa famille était riche et elle était fille unique. 25 ans plus tard, cependant, elle est soudain réapparue à Takamatsu. La raison première de son retour était l'enterrement de sa mère. Son père était mort 5 ans auparavant, mais elle n'avait pas assisté aux obsèques. Elle a commandé un modeste service funèbre, puis, après quelque temps, elle a vendu la maison où elle était née et où elle avait grandi. Elle s'est acheté un appartement dans un quartier calme de la ville. Elle semblait avoir l'intention de s'y installer. Au bout d'un moment, elle a même repris contact avec la famille Komura. Le chef de famille actuel est le fils cadet, qui a 3 ans de moins que l'ancien fiancé de Mademoiselle Saiki. Ils ont eu un entretien en tête-à-tête et personne ne sait ce qu'ils se sont dit alors. Finalement, elle est devenue responsable de la bibliothèque commémorative Komura. Elle était restée belle et mince. Elle avait gardé la même allure discrète que sur la pochette du disque. Seul manquait son beau sourire innocent d'alors. Elle sourit encore de temps à autre, un sourire charmant mais fugitif. Elle semble maintenant entourée d'un grand mur invisible et son sourire n'invite plus personne. Tous les matins, elle quitte la ville pour se rendre à la bibliothèque Komura dans sa Golf grise et le soir, elle fait la route dans l'autre sens. Elle était revenue dans sa ville natale, mais ne fréquentait ni sa famille ni ses amis d'autrefois. Quand il lui arrivait de les rencontrer, elle leur parlait poliment de la pluie et du beau temps. La conversation était généralement limitée. Dès qu'on commençait à parler du passé, et spécialement d'un événement auquel elle aurait pu être mêlée, elle dirigeait aussitôt, quoique avec beaucoup de tact, la conversation vers un autre sujet. Elle parlait toujours courtoisement et avec douceur, mais sans la surprise et la curiosité dont sa voix débordait autrefois. Ses véritables sentiments, si tant est qu'elle en éprouva encore, restaient désormais enfermés au fond d'elle. Elle n'exprimait jamais d'opinion personnelle sur quoi que ce soit, sauf dans les cas où son avis était sollicité pour des questions pratiques. Elle se confiait très peu. faisait toujours parler son interlocuteur et acquiesçait chaudement à ce qu'il disait. Et à un moment ou à un autre, on ressentait en face d'elle une sorte de malaise. On avait la vague impression de gâcher inutilement son temps en venant piétiner son monde bien ordonné. Et globalement, cette impression était juste. Elle a beau être revenue dans sa ville, elle est restée une énigme pour ses proches. C'est une femme enveloppée de mystère, comme d'un vêtement subtil et raffiné. Il y a quelque chose en elle qui empêche les gens d'approcher. Même la famille Komura, qui l'emploie, a gardé ses distances avec elle, réduisant au minimum leurs échanges. Au bout d'un moment, Oshima a été engagé par la bibliothèque pour lui servir d'assistant. Oshima ne faisait pas d'études, ne travaillait pas non plus, il passait ses journées enfermé chez lui, à lire et à écouter de la musique. Il n'avait guère d'amis, en dehors de quelques personnes avec lesquelles il échangeait des mails. Il passait beaucoup de temps dans les consultations spécialisées, à cause de son hémophilie, ou se promenait sans but dans sa voiture de sport. Mis à part ses visites régulières à l'hôpital universitaire d'Hiroshima, ou les moments qu'il passait dans la chambre de Koshi, il quittait rarement la ville. Mais dans l'ensemble, il était satisfait de sa vie. Un beau jour, par hasard, sa mère l'avait présenté à Mademoiselle Saiki, à qui il avait plu tout de suite. Il avait également trouvé Mademoiselle Saiki sympathique, et l'idée de travailler à la bibliothèque lui plaisait bien. Oshima était la seule personne avec laquelle Mademoiselle Saiki avait un contact quotidien et avec qui elle parlait. À vous entendre, Oshima-san, j'ai l'impression que Mademoiselle Saiki est revenue dans cette ville uniquement dans le but de travailler à la bibliothèque Komura. C'est exact. Les obsèques de sa mère ont juste été l'occasion pour elle de revenir ici. Revenir dans cette ville pleine de souvenirs a dû être une décision difficile à prendre, mais qu'elle avait à cœur. Pourquoi ce lieu est-il si important pour elle? Tout d'abord, c'est là que son ami vivait. Il était le fils aîné de la famille et avait sans doute hérité ce goût de ses ancêtres, car il adorait lire. Et puis, et ça aussi c'est une caractéristique de sa famille, c'était un garçon assez solitaire. C'est pourquoi, dès son entrée en collège, il a déclaré qu'il ne voulait plus habiter la maison principale où vivait toute la famille, mais s'installer dans ce petit bâtiment qui fait maintenant partie de la bibliothèque. Ses parents ont donné leur accord. Tout le monde aimait la lecture chez eux. Ils pouvaient comprendre son désir de vivre seul, entouré de livres. Il occupait donc cette petite annexe, sans personne pour le déranger, et ne se rendait dans la maison principale que pour les repas qu'il prenait en famille. Mademoiselle Saiki venait lui rendre visite tous les jours. Ils étudiaient ensemble, écoutaient de la musique, parlaient pendant des heures, et, sans doute, faisaient-ils l'amour. Parfois aussi, ils dormaient ensemble. Cet endroit était leur paradis. Les deux mains posées sur le volant, Oshima me regardait. « Et c'est là-bas que tu vas vivre, mon petit Kafka !» Comme je te l'ai dit, la bibliothèque a été rénovée. Mais cette pièce est restée la même. Fondamentalement, la vie de Mademoiselle Saiki s'est arrêtée à 20 ans, à la mort de son amie. Elle n'avait peut-être même pas 20 ans, je ne sais pas exactement. Ce que je veux dire, c'est que les aiguilles de l'horloge enfouies dans son âme se sont arrêtées brutalement à cet âge-là. Ensuite, évidemment, le temps extérieur a continué de s'écouler et a laissé ses marques sur elle comme sur tout le monde. Mais pour elle, ce qu'il est convenu d'appeler le temps n'a aucun sens.
Aucun sens ?
Oshima hoche la tête. C'est comme s'il n'existait pas.
Autrement dit, elle continue à vivre dans ce temps arrêté ?
Exactement. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle soit un mort-vivant. Quand tu la connaîtras un peu, tu comprendras.
Oshima étend une main et la pose sur mon genou, d'un geste très naturel.
Tu sais, Kafka Tamura, il y a dans nos vies des points de non-retour. Et dans certains cas, des points au-delà desquels on ne peut plus avancer. Quand ça arrive, on est obligé de l'accepter et de vivre avec.
Juste avant de nous engager sur l'autoroute, Oshima arrête la voiture, remonte la capote et met à nouveau la sonate de Schubert dans le lecteur de CD.
« Encore une chose que tu dois savoir, dit-il. Mademoiselle Saeki a le cœur blessé. Bien sûr, tout le monde l'a plus ou moins. Toi, moi, aucun doute là-dessus. Mais dans son cas, sa blessure est plus personnelle et dépasse le sens usuel que l'on donne à ce terme. Son âme est agitée de mouvements étranges. Je ne veux pas dire par là qu'elle est dangereuse, pas du tout. Elle se comporte parfaitement bien au quotidien, en un sens plus normalement que la plupart des gens que je connais. Elle est profonde, intelligente, pleine de charme. Simplement, je voudrais que tu ne t'inquiètes pas si tu remarques des choses bizarres dans son attitude.
Des choses bizarres ?
Oshima secoue la tête. Je l'aime beaucoup, tu sais, et j'ai du respect pour elle. Je suis sûr que tu éprouveras les mêmes sentiments à son égard.
Il n'a pas répondu directement à ma question. Pourtant, il n'ajoute rien. Il rétrograde, accélère de nouveau et dépasse un minibus juste avant qu'on entre dans un tunnel.